l'écoute de l'Italie.
Une émission de l'INIS, le quatrième jeudi de chaque mois, de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition.
Chansons.
Gastronomie.
Bonjour Alain.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent.
Et bonjour à tous les auditeurs de Couleur FM.
On aurait pu dire bonjour à Nîmes, mais visiblement elle est coincée
dans la neige.
Alors, actualité ?
Alors, bof, en Italie...
Actualité bof.
Bof, oui. Tout est un peu coincé par la neige aussi.
Oui.
L'Italie traverse une triste période qui va durer au moins jusqu'aux élections, aux prochaines élections, hein. Parce que tout le monde est en campagne en ce moment. Mmh, mmh. Tout le monde pense à la campagne, tout le monde se bat pour... Les alliés se battent pour la désignation de leur tête de liste encore.
Mais est-ce que ça est vraiment important, puisqu'on a entendu il y a quelques jours déjà que la plupart des pays vont être en faillite, donc... Est-ce que ça vaut le coup encore de faire...
Non, mais le président du Conseil dit que tout va très bien.
Bon, bah alors ça va.
Alors, les statisticiens de ces services ne disent pas tout à fait la même chose. Mais enfin, ce qui est important, c'est l'annonce, c'est l'image qu'on donne. Et puis, il pense surtout, le président du Conseil, à se débarrasser de ses procès. Alors, comme le Conseil constitutionnel... a déclaré inconstitutionnelle la loi d'immunité judiciaire qu'il avait fait voter par le Parlement pour les quatre premières personnalités de l'État. Alors il en a fait voter une autre qu'il appelle de légitime empêchement.
Ouais.
Alors qu'est-ce que c'est que le légitime empêchement ? Ouais. Eh bien, le président du Conseil, évidemment, a beaucoup de travail. Et il est élu pour gouverner, pas pour aller dans les procès dans lesquels il est inculpé. Alors, la loi votée dit que le président du Conseil pourra, pendant une période de 18 mois, se prévaloir du légitime empêchement. C'est-à-dire qu'il n'aura pas le temps d'aller à ses procès.
Donc il faut qu'il justifie. Enfin, justifie, il n'a rien à justifier.
Il n'a rien à justifier. Non,
il
non,
faut
non.
Qu'il soit, par exemple, s'il vient à une manifestation d'INIS, ce jour-là, il n'est pas
mais
obligé
non, parce
d'aller...
Qu'il sera... Non, il y sera en tant que président du Conseil.
Voilà, d'accord.
Et c'est extraordinaire. Il a eu... La loi a été votée, évidemment, par 316 voix contre 239 et 40 abstentions. Puis il y a quand même 4 députés de la majorité qui ont fait faux bond. Parce qu'ils trouvaient...
Ils étaient empêchés.
Ils devaient avoir un légitime empêchement. Et c'est affligeant qu'on puisse accepter comme ça un président du Conseil qui n'a qu'une préoccupation, c'est d'échapper à la loi qu'il est en principe appelé à soutenir et à défendre. Et il est attaqué dans des quantités d'affaires, outre les deux gros procès dans lesquels il est inculpé. Récemment, le tribunal de Milan jugeait d'une affaire contre l'Espresso. Parce qu'en juin dernier, Berlusconi, dans une réunion d'industriels, de jeunes industriels à Santa Margherita Ligure, avait appelé les industries à ne plus donner de publicité aux journaux du groupe des Benedetti.
Je me demande pourquoi.
Oui, parce que c'est les journaux qui ont gardé vis-à-vis de lui une certaine indépendance, et entre autres l'Espresso. Alors, ceux-ci ont évidemment porté plainte, et la plainte est actuellement devant la première section civile de Milan, où les avocats de Berlusconi avaient dit non, mais il peut pas être inculpé parce qu'il n'y était pas en tant que président du Conseil, il y était en tant que député.
Eh ben, oui.
Et les députés sont couverts par l'immunité. Alors le président a refusé en disant mais non, il a parlé, il était là officiellement, ils avaient les preuves évidemment, il était là en tant que chef du gouvernement. Alors maintenant c'est la Chambre qui va devoir décider si subsiste ou non l'immunité. Alors évidemment, elle dira que l'immunité, qu'il y a immunité, mais c'est dire que dans tous les domaines, il a des affaires sur le dos et que son principal souci actuellement, c'est d'y échapper par des subtilités juridiques qui mettent en cause évidemment la légitimité de la loi, quoi. Parce que...
Tu parlais d'entreprise, mais je crois que auprès de Confindustria, et, enfin du patronat italien, il n'a pas que des amis en plus. Je crois que certains commencent à en lasser beaucoup, on va dire.
Bien sûr, parce que la situation italienne n'est pas bonne, quoi.
Alors, oui, enfin, elle n'est ni meilleure ni pire que dans beaucoup d'endroits, mais elle n'est pas bonne.
Elle n'est pas bonne, et lui nie tout problème, tout va bien, etc. Et il se saisit toute occasion pour dire qu'il n'est l'objet que d'un complot communiste. Ouais. Il y a son fils qui a été inculpé avec Confalonieri récemment. Il dit non, mais c'est incroyable, mon fils inculpé, mon fils. Ouais. Mon fils qui est quelqu'un de très bien, puisque c'est mon fils, c'est quelqu'un de très bien.
Obligatoirement.
Etc.
Génétiquement, il est obligatoirement.
Il est génétiquement
très bien.
Très, très bien. Donc c'est une situation un petit peu affligeante. Et puis les discussions sur les désignations de tête de liste, mais c'est pas. Ça arrive aussi à la gauche, à l'opposition, oui. Ne sont pas très réjouissantes non plus. Alors lui, il cherche surtout, il cherche de jolies filles pour être tête de liste, parce qu'il pense que leur tour de taille et de poitrine sera plus important que leur compétence politique pour inviter les électeurs à voter pour lui. Et ça aussi, c'est assez affligeant, quoi. Mais c'est comme ça.
Oui, je pense qu'on est, enfin on le dit depuis plusieurs années, mais je pense que c'est de plus en plus vrai. On est dans une période un peu particulière quand même. Je pense que c'est, je sais pas si c'est la fin de système. En tous les cas, ça devrait être la fin de système de ce type, en tous les cas, qui nous amène des dirigeants de cette envergure, ironiquement parlant. Mais ça devient un petit peu pénible.
Oui, et le problème, c'est qu'ils sont
élus.
Ils sont élus, ce qui veut dire que il y a un mode de fonctionnement où compte l'annonce. On ne s'occupe pas de la réalité jusqu'au moment où la réalité est tellement désagréable que tout pète.
Non, non, mais le problème, c'est de dire que l'on fait, même si on ne fait pas, quoi. C'est de parler, voilà. L'important,
oui,
c'est de parler.
Mais alors ça, c'est vrai aussi chez nous. Quand
absolument,
on voit...
non, mais c'est le problème. C'est que, malheureusement, c'est répété sur plusieurs pays. Tout
et simplement. De ce point de vue-là, on a une direction politique de notre pays qui se révèle bonne disciple de Berlusconi, comme Berlusconi le dit lui-même, d'ailleurs.
Mais il le dit, mais beaucoup de politiques en France le disent, hein, qu'on suit Berlusconi, qui lui-même peut-être a un modèle, je ne sais pas, mais enfin bon.
Oui, bien sûr, Mais quand on voit, l'autre jour, hein, le Monde publiait la quantité de lois votées par le Parlement et qui ne sont jamais appliquées, parce que on fait pas voter les décrets d'application.
Absolument.
Et ça, c'est effarant, quoi. Mm-hmm. Parce que quelle est l'image ? On dit, le Parlement a voté cette loi. Mm-hmm. Pour les gens, puisque cette loi a été votée par le Parlement...
Donc elle est appliquée.
Elle est loi.
Elle est loi. Mm-hmm.
Mais elle n'est pas loi
absolument.
Parce que...
Elle n'est pas appliquée.
Parce que le décret d'application n'a jamais été pris.
Bien sûr.
Et c'est vrai pour une quantité, mais incroyable, un pourcentage
bien
incroyable
bien
de
sûr.
Lois. En Italie, c'est pareil. Et puis, la maîtrise de l'information, des télévisions par le Parti de la Liberté est telle qu'on dit n'importe quoi. On dit n'importe
quoi. Ce qui est plus surprenant dans ces aspects médiatiques, bon, les médias, bien sûr, la force des médias, la force de la télé, la force des journaux, enfin moi. Mais... À notre époque, avec le développement d'Internet, avec même si tout le monde n'a pas effectivement Internet ou ne va pas piocher sur Internet, où il faut aussi faire le tri, bien sûr. Mais le côté médiatique et utilisation des médias devrait être limité, finalement, dans sa portée.
Oui, mais ça...
Et non,
parce qu'il y a l'image.
Il y a la force de l'image.
Il y a la force de l'image qui est très, 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 très grande.
Voilà.
Bon, alors, on va quand même écouter une chanson.
Oui,
on va
bien
pas
sûr,
se laisser prendre par... par ces images-là.
On va écouter une chanson. Tu parlais de jolies filles, que certains présidents ou du Conseil aiment bien les jolies filles.
Alain, qu'est-ce que tu vas dire?
Visiblement, il y a des présidents qui aiment les jolies filles. C'est bien, ils ont bien raison. Et on va écouter une jolie fille. Je pense qu'on peut dire que c'est une jolie fille. Puisqu'il s'agit, comme on dit, de la première dame de France.
La première dame de France.
Alors, prononcée à la française Carla Bruni, ou Carla Bruni.
Tedeschi.
Bruni Tedeschi. On va l'entendre dans une chanson, vous allez l'écouter à la fois en français et en italien. Donc le titre en français, c'est « Le ciel dans une chambre », qui est une chanson de Gino Paoli, dont on parlera tout à l'heure. Et on vous expliquera évidemment pourquoi on souhaitait faire écouter cette chanson, qui est en italien « Il cielo in una stanza ». Donc, notre amie Carla, si je puis dire, sur des arrangements de Louis Bertignac.
Quand tu es près de moi, cette chambre n'a plus de parois, mais des arbres, oui. Fini. Et quand tu es tellement près de moi, c'est comme si ce plafond-là, il n'existait plus. Je vois le ciel penché sur nous, qui restons ainsi. Sembra un organo che canta per te e per me. Su nell'immensità del cielo per te e per me. Pour toi et pour moi.
Voilà. Alors pour
Carla Bruni.
Pourquoi cette chanson ?
Alors pourquoi cette chanson ? Parce que on a parlé récemment de Carla Bruni à l'occasion d'un des grands événements de la vie musicale italienne, c'est-à-dire un des deux festivals de San Remo. On en parle quelquefois, mais on est à peu près les seuls à en parler, parce que la presse française ne rend jamais compte des festivals de San Remo.
Non, de moins en moins. Peut-être il y a longtemps,
jamais. Non. Et le festival de San Remo donc, commence le 16 février, va se dérouler du 16 au 20 février. Mmh. Et Carla Bruni devait y participer.
En duo
avec Gino Paoli, précisément. Mmh. Et récemment, elle a démissionné, parce que...
Officiellement, elle était... Elle ne pouvait plus y aller à cette date-là. Voilà, ça, c'est la version officielle.
Alors, la version réelle, qui a été publiée par toute la presse italienne, c'est qu'un des chanteurs qui a été sélectionné pour San Remo, qui est le vainqueur de l'an dernier, qui est Povia, a écrit une chanson sur l'Italie dans laquelle il écrit deux vers qui sont ironiques sur le couple Sarkozy. Oui, Alain, je me suis...
Non, il y a effectivement Povia qui est aussi devait, qui a gagné l'an passé et qui oui. devait chanter, mais qui lui... Il y a plusieurs problèmes, disons, sur ce festival, plusieurs problèmes d'interdiction de
ça,
passage.
Ça, c'est sûr.
Donc il y a Povia parce qu'il a écrit une chanson, La Verita, sur Eluana, la personne dont on a beaucoup parlé au niveau actualité, il y a quelques mois, qui a remis en avant au niveau actualité le problème de l'euthanasie. Donc cette chanson dérange et le festival
voilà,
de Saint.
Tout à fait.
Et alors l'autre.
C'est tout à fait.
Voilà. Et l'autre, mais c'est vrai que c'est tellement lié au niveau de San Remo que on peut effectivement dire qu'il y a plusieurs cas qui font que ce festival devient quasi intéressant finalement.
C'est Simone Cristi.
Voilà. Oui. Simone Cristi qui lui a écrit, qui est un jeune auteur-compositeur romain,
oui,
qui a été lancé par San Remo
voilà,
aussi.
Qui voilà, qui a été primé l'année
voilà,
dernière aussi.
En tant que jeune interprète.
Oui.
Et il a écrit une chanson au départ sur l'Italie, en se moquant un peu de ce qu'est devenu la superficialité, de tout ce qu'on nous donne, aussi bien en Italie qu'ailleurs, à manger, entre guillemets, tous les jours. Et sur dans ce texte, il a cette chanson qui s'appelle Meno Male. Mm-hmm. Il a effectivement...
Égratigné,
mais... gentiment, on va dire.
C'était pas méchant du tout.
C'était pas méchant du tout. Le couple Sarkozy, tout en montrant aussi qu'il n'était pas indifférent à Carla Bruni.
Oui.
Alors, la version officielle dont on a parlé tout à l'heure n'était qu'officielle, en fait, hein, puisque Carla, qui devait chanter avec Gino Paoli, le créateur de la chanson, en duo, la chanson qu'on vient d'entendre, et Carla étant ravie, en plus de venir chanter avec Gino Paoli, qu'elle admire profondément, elle le dit, elle l'a toujours dit,
mm-hmm.
et donc finalement, a refusé de venir chanter, étant, paraît-il, prise sur d'autres lieu plus officiel. Et en fait, ce que dit entre guillemets la presse italienne, même si une certaine presse relaie la version officielle, c'est que c'est simplement Monsieur Sarkozy qui a pas aimé. Quoi.
Voilà. Hein. Voilà.
Voilà. Voilà. Alors,
mais il y a effectivement, comme tu disais, beaucoup d'incidents sur cette préparation du Festival de San Remo. D'abord, il y a une chanson qui a été d'un jeune groupe qui était une belle chanson, mais qui évoquait la situation politique actuelle internationale. Et qui a été interdit, qui n'a pas été sélectionné, apparemment, c'est une censure politique. On n'a pas aimé que le Festival de San Remo se préoccupe trop de problèmes douloureux comme l'Irak, l'Afghanistan, les troupes italiennes en Afghanistan, etc.
Alors que ce côté du festival le rend finalement de plus en plus intéressant, parce que longtemps il a été un petit peu axé, on va dire, sur la chanson dite uniquement de sinon facile, où les thèmes de ce type n'étaient pas abordés quand même. Et oui. Depuis quelques années, il y a une tentative là qui est intéressante.
Il y a une tentative
hein, c'est pour
de se servir.
Ouais.
De se servir
de l'actualité. C'est sûr.
On fait une chanson, par exemple, en ce moment, et il y a eu la chanson de l'année dernière sur ce jeune homme qui était homosexuel, heureux de l'être apparemment, et puis un jour, il rencontre une jeune femme, il en tombe amoureux, et ils se marient et ils sont heureux ensemble. Alors c'est une chanson qui avait fait énormément de bruit, parce qu'elle elle avait été interprétée comme une critique de l'homosexualité. On était plus heureux si on épousait, si on était hétérosexuel. Ça avait fait beaucoup discuter. Cette année, il y a encore des chansons qui sont sélectionnées dans ce type, qui exploitent. Alors, c'est le cas de la chanson de Povia, qui est une lettre de Éloine à son père, qui a obtenu qu'on arrête, depuis 17 ans qu'elle était en coma artificiel, qu'on arrête
le soutien
médical, avec l'avis des médecins, avec l'avis de toute la famille, l'avis favorable, et qui finalement a obtenu un accord d'un tribunal, on en avait parlé la dernière fois. Et puis récemment, il y a un autre chanteur qui a été éliminé de San Remo, c'était Morgan, qui était parmi les mieux classés, ceux qui étaient considérés comme ayant le plus de chances de gagner. Et il a laissé une interview à un journal italien disant qu'il s'était drogué. Et alors, cette interview a été très mal vécu par les officiels, disant oui, il laisse entendre que la drogue, ma foi, c'est une aide à la création artistique, c'est pas acceptable. Donc on l'a éliminé et pas remplacé, parce que c'est vrai qu'il était difficile à remplacer. Et puis il a dit que de toute façon, puisque c'était comme ça, il se foutait du festival de San Remo et d'y participer. Alors c'est un peu ça, San Remo, de plus en plus quand même. Sauf qu'on cherche à exploiter effectivement des thèmes de l'actualité dont les gens discutent. Mais on ne les traite jamais. Le contenu est toujours aussi médiocre musicalement et poétiquement.
Alors, une petite information quand même pour les rares médias français qui ont parlé de cet incident, on peut dire, de Carla qui renonce au festival après s'être engagé à y venir. Simone, l'auteur italien.
Simone Cristi.
Et Simon, c'est un homme, ce n'est pas une femme, comme je l'ai entendu sur certaines radios françaises.
Voilà.
Même si Simone est en italien, la traduction de Simon est Simone, et s'écrit comme Simone, mais ce n'est pas une dame.
Hein. Mais Simone, c'est Simone.
Et voilà, tout à fait.
Ou Simonetta.
Voilà, tout à fait.
Alors, on va écouter
l'original.
L'original, la chanson de
Gino Paoli.
Gino Paoli, qui est effectivement une chanson très sensuelle, elle est de 1960. À l'époque, ça a fait un boom par rapport justement à un festival de San Remo qui durait depuis 1951 et qui commençait à s'affadir, dont les créateurs, dont Amilcare Rambaldi, voulaient faire vraiment un festival de ce qu'il y avait de meilleur dans la chanson italienne et qui se laissait tomber de plus en plus dans la chanson commerciale, etc. Et ce qu'il faut préciser, il y a un adjectif qui disparaît dans la traduction.
Viola.
De Carla Bruni. C'est quand tu es là à côté de moi, ce plafond violet, non, n'existe plus. Alors, Gino Paoli a souvent raconté comment il a écrit cette chanson, dont il est l'auteur du texte et de la musique. Il était en fait dans une maison close. Donc c'est l'évocation effectivement très sensuelle d'un acte sexuel, mais vraiment dans un lieu spécialisé. Et il montre comment c'est l'acte sexuel en lui-même qui fait enfler la pièce. La pièce devient immense, l'harmonica lui semble un orgue, on a l'impression d'être dans l'immensité du ciel, et donc cette chambre de bordel devient un lieu extraordinaire où le plafond est vu comme violet.
Questo soffitto viola est devenu ce plafond-là.
Ce plafond-là.
Sans traduction.
Non. Sinon, la traduction est exacte. Quand tu es ici avec moi, cette pièce n'a plus de parois, mais des arbres infinis. Alors aussi, les murs disparaissent, deviennent une verdure d'arbres extraordinaires. Quand tu es ici, à côté de moi, ce plafond violet non n'existe plus. Je vois le ciel au-dessus de nous qui restons ici, abandonnés, comme s'il n'y avait plus rien au monde. Un harmonica joue, on dirait un orgue qui vibre pour toi et pour moi. Là-haut, dans l'immensité du ciel, pour toi et pour moi, dans le ciel.
Mais d'où l'intérêt, on en a souvent parlé, de répéter qu'une traduction, c'est pas toujours si évident que ça, une traduction d'une chanson, en rendre l'atmosphère...
C'est très difficile. Mais ici, le violet était possible.
Le violet, ici, je ne comprends pas qu'il ne soit pas, parce que c'était quand même...
Le violet était chantable.
Facile à placer quand même.
Et oui. Mmh. Et puis, il tombait bien dans le rythme possible. Mmh. Alors on va écouter Gino Paoli dans un enregistrement de 1960.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti. Ma alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te e per me. Su nell'immensità del sembra un organo che vibra per te e per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me.
Voilà, Gino Paoli.
Gino Paoli. Alors,
un grand.
Ah, Gino Paoli a été un de ceux qui ont révolutionné la chanson italienne à la fin des années 50. Mais cette chanson fait partie de son premier disque. Et Gino Paoli donc était né en 1934, à Gorizia, près de Gorizia. Et puis sa famille est venue vivre, son père était ingénieur naval, donc est venu vivre près de Gênes, à Pelli, à une dizaine de kilomètres de Gênes. Et sa mère était femme au foyer, mais elle était peintre et musicienne. Donc il a entendu jouer...
Il a baigné dans
la musique depuis qu'il était tout petit. Et effectivement, il n'a pas voulu faire autre chose. C'était un très mauvais élève. C'est devenu un très grand de la chanson. Et puis il a été pendant deux législatures...
Député.
Il a été député dans le groupe indépendant du Parti communiste italien.
Sans avoir, je crois, sa carte. Hein, si je
voilà, il, non, non, c'était, il faisait partie du groupe indépendant du PCI. Et il est d'ailleurs, entre parenthèses, pendant qu'il était député, beaucoup intervenu pour faire voter des lois favorisant le développement de la chanson.
Puis là, il y a une petite... il vit avec une balle dans le cœur.
Oui, alors, la vie de Gino Paoli, je disais, c'était un mauvais élève. Il n'a jamais beaucoup suivi. On l'a changé d'école. On l'a mis dans des écoles religieuses, mais c'était encore pire. Et par contre, il faisait de la musique et il a monté des groupes pendant son adolescence, où il a rencontré des gens jusqu'à ce qu'il soit considéré comme un des créateurs de ce qu'on a appelé un peu abusivement l'école de Gênes, où il y avait des gens comme Tenco, comme Bruno Lauzi et pas mal d'autres. Et 1960, c'est le moment où apparaît un nouveau type de chanteur, ceux qu'on va appeler les cantautori, c'est-à-dire les auteurs, compositeurs, interprètes, qui n'écrivent plus des chansons, je dirais, pour les vendre, mais qui veulent écrire des chansons qui disent ce qu'ils vivent, eux. Et puis, ils ont eu la chance d'être contemporains d'un grand producteur qui est Nanni Ricordi. Et Nanni Ricordi, qui était donc l'héritier de la grande maison de disques Ricordi, qui était une maison napolitaine d'ailleurs, qui avait émigré à Milan. Et c'était un ami de la Callas, qui était au plein de sa carrière. Et la Callas avait, pour le public des États-Unis, c'est-à-dire pour des millions de personnes, avait enregistré pour Nanni Ricordi, gratuitement, un opéra qui a eu un succès. C'était une Médée qui a eu un succès très grand aux États-Unis. Donc Nanni Ricordi s'est trouvé en possession d'une somme énorme d'argent. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ça? Avec Crépax, il fonde une filiale de sa maison de disques, de la maison Ricordi, qui se donne comme objectif de publier des chanteurs qui n'étaient pas connus du tout et qui étaient précisément les cantautori qui apparaissent à ce moment-là.
C'est un encouragement à la création.
Oui. On pourrait dire. Et il a lui-même préparé des anthologies. Il y a une anthologie de Ricordi et Crépax sur ses premiers chanteurs qui souvent vendaient peu, donc qui n'étaient pas rentables et qui n'intéressaient pas beaucoup les maisons d'édition traditionnelles. Et donc, petit à petit, alors, Gino Paoli galère beaucoup, il chante dans des nights, il a une vie très peu orthodoxe, il s'est marié, et puis il a une maîtresse, il sera entre autres l'amant de Stefania Sandrelli. Il a cette particularité de s'être trouvé père de deux enfants, l'un de sa femme, l'un de sa maîtresse, qui sont retrouvés à accoucher en même temps. Et ce qui, évidemment, à l'époque, on est dans les années 60, et la démocratie chrétienne est encore au pouvoir, et la famille est une chose sacrée. Et puis, il a une période de... C'était un grand ami de Luigi Tenco, dont on a parlé. Et ils se brouillent parce qu'ils étaient tous les deux amoureux de Stefania Sandrelli, entre autres.
Ils avaient bon goût.
Ils avaient bon goût. C'était aussi une très belle actrice et puis une grande actrice, mais très libre, et très libre de son corps. C'est elle qui a tourné beaucoup de films avec Tinto Brass, par exemple, qui sont très érotiques. Et il a été aussi lancé par Mina, par exemple, qui a chanté ses chansons, entre autres « Il cielo in una stanza », avant Carla Bruni. Et puis, une nuit, il est pris, il a des crises, il se drogue, et il va une fois se tenter de se suicider. Alors, lui dira après que l'arme est partie toute seule. Le coup est parti pendant qu'il nettoyait son arme, c'est classique. Mais il se met une balle dans une partie non opérable et mais non déterminante du cœur. Donc il continue à vivre avec une balle dans le cœur.
Depuis plusieurs dizaines d'années, en fait.
Ben, 1934, il est toujours vivant et il chante
toujours. Mais la balle était dans les années 60, donc il y a une cinquantaine d'années qu'il a cette balle.
Il vit avec ça et c'est quelqu'un qui est en très bonne forme. Et donc il va petit à petit devenir un des grands de la chanson. Il va passer à la RCA, il passera dans plusieurs maisons d'édition et il fait des chansons qui seront des tubes et qui le sont toujours aujourd'hui. Alors, on va en écouter une qui est célèbre, c'est Sapore di sale. Sapore di sale, qui est de 63 et qu'il a écrit inspiré par Stefania Sandrelli. Alors, goût de sel, goût de mer que tu as sur la peau, que tu as sur les lèvres quand tu sors de l'eau et que tu viens t'étendre à côté de moi, à côté de moi. Goût de sel, goût de mer, un goût plus amer de choses perdues, de choses laissées loin de nous où le monde est différent, différent d'ici. Le temps est dans les jours qui passent, paresseux, et laissent dans la bouche le goût du sel. Tu te jettes dans l'eau et tu me laisses te regarder et je reste seul dans le sable et dans le soleil. Et puis tu reviens près de moi et tu te laisses tomber comme ça dans le sable et dans mes bras. Et pendant que je t'embrasse, goût de sel, goût de mer.
C'était une chanson qu'on a beaucoup entendue, qu'on entend
encore. On entend encore et Gino Paoli la chante encore.
Et quand Carla Bruni est interrogée sur ses goûts musicaux, je crois qu'elle est très inspirée aussi par la chanson anglo-saxonne. Mais elle cite toujours cette chanson.
Absolument.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare. Thank you. sale, mi butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Cette chanson a effectivement rompait avec le ton des chansons de Sanremo. C'était des chansons d'amour, les chansons de Sanremo, pour une grande part. Mais c'était un amour sans rapport avec ce qui est décrit dans Sapore di Sale. C'était pas un amour, il n'y avait pas de sensation, c'était des sentiments. On se tenait tout au plus par la main. Si on s'embrassait, c'était tout au plus par allusion et il fallait pas que ça aille trop loin. Donc c'était vraiment un amour romantique, mais de très basse qualité, quoi, de très, très superficiel. Mmh. Le seul qui était accepté par la censure démocrate chrétienne. Et voilà qu'on évoque un homme et une femme qui sont sur une plage, donc on imagine qu'ils ne sont pas très, très habillés, et puis elle sort de l'eau, elle se jette sur lui, et ils s'embrassent, et c'est question de saveur, sapore, et de goût, saveur de sel, saveur de mer, saveur de toi, goût de toi. Donc c'est d'une sensualité très, très forte, très immédiate, qui va rompre complètement avec la tradition italienne de la chanson d'amour telle qu'elle est chantée à Sanremo.
De Sanremo, ce qu'on connaît quelquefois en France, il y a quelques chansons dans le répertoire français qu'on pense être purement françaises, mais qui sont faites des traductions de chansons italiennes où des interprètes français et italiens se trouvaient en même temps à Sanremo. Je pense notamment à la chanson de François Zardi, La maison où j'ai grandi, qui en fait est une chanson de Celentano au départ.
Oui, oui.
Via Gluck, qui a été après adapté en français par. Mais il y a plusieurs chansons comme ça.
Oui, bien sûr.
Qui sont des adaptations de chansons italiennes en fait.
Tout à fait. Et il y a eu pendant toutes les années 60 cette révolution des cantautori, des auteurs-compositeurs-interprètes. Qui en France était l'équivalent de la grande génération des Édith Piaf, Brassens, voilà. Brel, Ferré, dont on n'imagine pas le succès qu'ils ont eu en Italie. Édith Piaf est d'une popularité en Italie, parce qu'elle est chantée aussi bien en français qu'en italien. Brel, n'en parlons pas. D'ailleurs, Gino Paoli a traduit Ne me quitte pas de Brel. C'est un grand succès.
Brassens a été traduit, Léo Ferré a été traduit et s'est chanté lui-même en italien.
Il se chantait lui-même en italien, oui, surtout à la fin de sa vie.
Brassens et Edith Piaf qui ont un point commun, c'est de leurs mamans sont d'origine italienne.
Oui, tout à fait. Voilà. Brassens, c'était une napolitaine même. Voilà. Et donc, c'est tout ça est une autre tradition de la chanson que celle qui l'emporte à Sanremo, au Festival de Sanremo. Surtout au Festival de février, parce qu'il faut rappeler la France. En France, on n'en parle jamais, et c'est étonnant. Même Véronique Mortaigue, la chronique, la journaliste musicale du Monde, qui est de grande qualité, ne fait rien sur ces festivals. Il y a un second festival de Sanremo en octobre, qui est celui précisément de la chanson d'auteur, et auquel des gens comme Gino Paoli participent.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'on connaît peu la chanson d'auteur italienne, peut-être parce que c'est une chanson de texte qui suppose qu'on comprenne ce qui se passe, mais à part quelques personnages comme Paolo Conte, comme un peu Branduardi, mais quelques grands comme Guccini, même
ne sont pas connus,
ne sont pas connus du tout en France.
Il faut écouter Couleur FM.
Il faut écouter Couleur FM, absolument.
97.1.
97.1. Et l'émission, on arrivera, on finira par parler des cantautori.
Bien sûr.
L'émission qui est faite chaque mois sur la chansonnette italienne. Alors, voilà, Gino Paoli continue à écrire. Il a participé à Sanremo, d'ailleurs, il y a 2 ans. Et il continue à faire des disques. Il a une bonne vingtaine d'albums à son actif. Et c'est un chanteur apprécié encore aujourd'hui. Il a un public de jeunes. Alors, il a un public qui se multiplie parce qu'il a ses anciens fans. Et puis...
leurs enfants.
Et puis, voilà, leurs enfants, leurs petits-enfants. Mmh. Il a toujours un public de jeunes. Et c'est vrai qu'il a fait beaucoup pour le financement, par exemple, de la chanson italienne. Il a travaillé avec des sociétés d'auteurs. Il en a même, il a contribué à en créer une. Et il a fait voter des lois intéressantes de soutien à la chanson. Alors, on peut écouter une dernière chanson de lui pour aujourd'hui. C'est une chanson qui a eu aussi énormément de succès, qui a été reprise par des quantités de chanteurs. C'est entre autres Ornella Vanoni,
qui est aussi une grande chanteuse et avec qui
il a fait des tournées dans les années, fin des années 80, entre autres. Et c'est Senza fine, sans fin, tu traînes notre vie sans un moment de souffle pour rêver, pour pouvoir se rappeler ce que nous avons déjà vécu. Sans fin, tu es un instant sans fin. Tu n'as pas, il n'a pas d'hier, tu n'as pas d'hier, tu n'as pas de demain, tout est désormais dans tes mains grandes, tes mains sans fin. Rien ne m'importe, la lune ne m'importe pas, les étoiles ne m'importent pas. Toi pour moi, tu es la lune et les étoiles, toi pour moi, tu es le soleil et le ciel, toi pour moi, tu es tout ceci, tu es tout ce que je veux avoir, sans fin, sans fin. Et alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est l'expansion. L'amour crée une expansion de l'espace, une expansion du temps. Tu es la lune, tu es le soleil, tu es la femme aimée devient quelque chose d'immense et qui occupe tout l'espace et tout le temps.
Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Thank you. importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. La 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 la.
Voilà pour Gino Paoli. Bien, alors je voulais vous parler maintenant d'un livre qui est paru récemment de Gérard Noiriel. Ce livre traite d'un sujet et d'un événement qui a été quasi occulté pendant des années en France, et puisque ce livre porte le titre « Le massacre des Italiens, Aigues-Mortes, 17 août 1893 ». Alors, pourquoi ce livre ? Parce que, bon, il y a eu plusieurs vagues d'immigration italienne, donc d'émigration à partir d'Italie dans différents pays du monde. Et puisqu'on dit que plus de 30 millions d'Italiens ont quitté l'Italie, et pour ça, c'est pour ça qu'on dit que maintenant, il y a peut-être 60 millions de personnes d'origine italienne dans le monde. Et une des premières vagues se situait après l'unité italienne, en fait. Et il y avait aussi des saisonniers qui passaient les frontières. Et donc Aigues-Mortes, qui était évidemment un lieu de travail, puisqu'il y avait le ramassage du sel chaque année, attirait soit des immigrés saisonniers, soit des gens qui avaient émigré en France et qui travaillaient sur ce ramassage de sel. On dit qu'à l'époque, donc cette année 1893, il y avait à peu près 3000 ouvriers qui travaillaient sur ces chantiers, dont au moins un tiers était italien. Mmh. Les autres venant des Cévennes, d'Ardèche, on disait même qu'il y avait quelquefois des repris de justice qui venaient travailler sur ces chantiers, puisque c'était un travail en plus très dur, mal payé, enfin toutes des conditions qui malheureusement existent encore sur certains domaines de travail actuel, où on fait travailler dans nos différents pays une main-d'œuvre à bas coût et sur des métiers difficiles. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce mois d'août et ce 17 août 1893 ? Alors comme toujours, dans ces grands chantiers, il y a des relents racistes, on va dire, et puis des bagarres qui se déclenchent. Il semblerait qu'une l'incident, ce qui s'est transformé après en massacre, soit parti du fait qu'on disait qu'un des ouvriers italiens avait lavé son pantalon dans de l'eau potable, ce qui à l'époque était l'eau étant rare, tout au moins l'eau potable, était considérée comme quelque chose à ne pas faire. Alors, l'avait-il fait, l'avait-il pas fait ? Enfin, voilà ce qui était dit. Il s'en est suivi, des différentes bagarres. Bon, tout ça, c'est entre querelles entre ouvriers italiens et ouvriers français. Mais bon, le calme ensuite a été rétabli jusqu'à ce que court une rumeur disant que 3 Français avaient été tués par les ouvriers italiens, ce qui n'était pas vrai, hein, mais c'était une rumeur qui a déclenché une haine et une chasse à l'italien dans les rues d'Aigues-Mortes. Mais vraiment une chasse à l'italien, et les habitants armés de tout ce qu'ils pouvaient trouver, qui pouvaient avoir, leur but était de tuer, hein, tout simplement. Et donc c'était le massacre aux Italiens, la chasse aux Italiens dans les rues d'Aigues-Mortes. Certains Italiens se refugiaient dans la boulangerie, dans les casernes, là où ils pouvaient trouver un abri. Alors, suite à ce pogrom, on peut dire, hein, on dit officiellement, je crois qu'on a dit qu'il y avait eu 8 morts. Quelques historiens disent 9, mais enfin, visiblement, il y en a eu beaucoup plus. Mais voilà la version officielle.
On parle de 17 morts et de 150 blessés.
Voilà. Mais la version officielle a augmenté un petit peu. Mais je crois que, comme souvent dans ces incidents, et vu qu'après, derrière tous ces événements, il y a eu un silence total, on ne sait pas très bien le chiffre exact. En tous les cas, Gérard Noiriel revient sur ce massacre en disant en plus que le maire d'Aigues-Mortes à l'époque, M. Terrasse, avait tranché en disant que pour lui, c'était quasi un petit incident.
Il avait excusé les auteurs du massacre.
Alors, ce qui est curieux là-dedans, c'est qu'en France, il n'y a jamais rien vu de publié sur ce massacre. Il faut quand même reconnaître le mérite à la municipalité d'Aigues-Mortes d'en parler dans son site de la commune, ce qui est quand même tout à son honneur. Je trouve que
c'est bien.
C'est bien. Mais en Italie non plus, il n'y a pas eu grand-chose de publié sur ce massacre. Il y avait eu, il y a quelques années, Enzo Barnaba, qui a, lui, écrit son livre en italien, qui n'a pas été traduit, pardon. Par contre, s'appelle « Morte agli italiani », qui relate aussi ce fait d'Aigues-Mortes, ce massacre d'Aigues-Mortes, et qui le situe dans toute cette mouvance d'émigration et tous les sévices, les insultes, les faux procès que subissaient les Italiens à l'époque. Mais ça a duré longtemps, hein, parce que ce soit aux États-Unis, en Europe, les Italiens, c'était toujours les sales, comme toute immigration, les Italiens ont connu ce genre de problème, puisqu'on disait même qu'aux États-Unis, il y a eu deux populations qui étaient régulièrement lynchées, c'était les Noirs et les Italiens.
Oui.
Et puis,
c'était contemporain de l'assassinat de Caseri, de Sadi Carnot
à Lyon
par Caserio, qui provoque aussi
des mouvements anti-italiens.
Ah oui, absolument.
Mais ça a duré longtemps, puisque même en 70, Nixon, parlant des Italiens, parlait de leur odeur. En 1970,
oui, bien sûr.
Donc c'est l'odeur différente des Italiens, comme ils disent. Enfin voilà, donc c'est intéressant que ce monsieur, Gérard Noiriel, se soit penché sur
Et le titre du livre, c'est
Le massacre des Italiens, Aigues-Mortes, 17 août 1893. Et le titre, c'est Le massacre des Italiens.
Et c'est publié par qui?
Alors, il est publié chez une collection qui est Fayard, je crois. Oui, Fayard, les éditions Fayard. D'accord. Voilà. Voilà, sur fond musical peut-être de Sacco et Vanzetti, qui étaient deux Italiens qui, eux, ont émigré aux États-Unis et qui avaient été accusés, là aussi, de meurtre, qui étaient passés sur la chaise électrique, hein, tout simplement, en 1927. Ils ont été réhabilités 50 ans après, Sacco et Vanzetti. Donc, en fond musical, la ballade de Sacco et Vanzetti, par la compagnie de Gualtiero Bertelli. Et on va finir sur une note un petit peu plus gaie, puisqu'en ce moment, il y a le carnaval de Venise, on est sur la fin du carnaval, qui a commencé par le saut de l'ange, comme habituellement. Mais là aussi, on parlait d'immigration. Bianca Brandini, qui a fait ce fameux saut de l'ange qui lance le carnaval, en fait, est une jeune femme qui est un top modèle de père vénitien et de mère franco-brésilienne. Elle a grandi en France, après elle était aux Beaux-Arts, elle est retournée en Italie, elle a fait un petit peu son parcours de top modèle dans tous les pays du monde. Et elle se dit, en France, elle se dit italienne, en Italie, elle se dit parisienne. Voilà. On est encore dans les passages de frontières. Voilà,
échanges.
On va vous donner une recette qui est le café à la vénitienne, que l'on boit, paraît-il, au Florian. Alors, vous hachez finement une demi-gousse de vanille. Vous la faites bouillir avec 375 ml de lait, puis vous laissez refroidir. Vous mélangez ainsi le lait refroidi avec 75 g de maïzena et vous portez tout ça à ébullition en remuant jusqu'à épaississement de la crème. Vous y ajoutez 150 ml de café noir frais. Vous versez dans des coupes, et puis vous laissez refroidir le tout. Et quand la crème est froide, vous mettez dans chaque coupe une boule de glace à la noisette, un quartier de pêche au sirop, vous arrosez de cognac par exemple, et vous couvrez le tout de chantilly. Ça a l'air bon ? Et vous pouvez obtenir cette recette en téléphonant au 04 74 93 41 28 ou en contactant Inis via le site d'inisitalienorizer.com. On va finir avec cette chanson qu'il est dommage d'avoir un petit peu coupée, donc la ballata di Sacco e Vanzetti. À une prochaine fois.